Radio Okapi. Le journal en français, Jacques-Yves Molima.
L'ambiance de la rentrée scolaire gâchée avec la pénurie de carburant à Kinshasa, les élèves font le pied. Le prix de la course et des transports en commun a augmenté. Certains taximens font des demi-terrains. Une dure réalité pour les Kinois qui demandent aux autorités de trouver une solution en urgence. Le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle appelle les communautés Teke et Yaka à déposer les armes et à privilégier la cohabitation pacifique. Fumu Difima, président de cette structure, souligne que ce conflit qui a déjà coûté la vie à plusieurs Congolais ne profite à personne. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Dr. John Senga, secrétaire général du syndicat national de médecins Sinamed. Il s'exprimera sur la grève que ce syndicat a décrétée sur l'ensemble du pays. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. À Kinshasa, vous le savez mesdames et messieurs, la pénurie de carburant affecte malheureusement aussi le secteur de l'éducation. Par manque de transport, beaucoup d'élèves parcourent de longues distances à pied depuis la rentrée des classes lundi dernier pour arriver à l'école ou regagner leur domicile. Certains d'entre eux indiquent que cette situation vient gâcher l'ambiance de la rentrée scolaire. Ils appellent les autorités à trouver urgemment une solution à ce problème pour éviter ces conséquences néfastes dans l'éducation. Notre reporter, Grace Hamzati, a tendu son micro à quelques élèves dans la commune de la Gombe. On les écoute.
Ça rend la vie scolaire un peu plus difficile. Parce que les parents, ils n'ont pas franchement le temps de faire des allers-retours, aller au travail, venir nous chercher. Comme ils nous ont responsabilisés, on doit se débrouiller seul. Mais malheureusement, le transport, il se fait de plus en plus difficile. Des fois même, on se résout à marcher pendant des grandes distances, sous le soleil. C'est assez compliqué.
Ouais, je marche. Pour prendre le transport, c'est devenu difficile. Le matin, il n'y a pas de moyen de venir avant à l'école.
Quand je rentre de l'école, à 12h, quand on sort, quand je viens à l'arrêt, je vois déjà qu'il y a beaucoup de gens. Exemple, pour prendre un magasin, c'est déjà dur. Donc, je suis obligé de faire le pied de Gombe à Kitambo.
À chaque fois qu'on vient ici, il y a vraiment un embouteillage pas possible. On ne voit même pas de transport disponible ici. On marche à pied à peu près jusqu'à Royal. Et de là, parfois aussi, il n'y a pas de transport. Les embouteillages, c'est partout. Le manque de transport, vraiment, c'est vraiment compliqué ces temps-ci. On est parfois obligé de faire de longues distances pour avoir un transport. Personnellement, moi, je marche pour pouvoir caper la Yolo facilement. Je dois marcher d'ici jusqu'à l'Académie de Boza. Et là, quand tu arrives à l'Académie de Boza, on va te dire le transport, c'est 1000 francs. Pourtant, là-bas, on connaît que c'est 500 francs. Comme on vient à l'école, à la maison, on peut arriver à 14h. Normalement, on arrive à 14h, mais là, tu vas arriver à 16h, au voire même 17h.
En effet, cette pénurie de carburant se trouve être maintenant une dure réalité pour les Kinois qui sont contraints à dépenser 10 000 francs congolais ou plus en termes de transport par rapport aux 2 000 francs congolais habituellement dépensés suite à la hausse des prix unilatérale du transport en commun par les chauffeurs de taxi, taxibus et taximoto. Un coup dur pour quelques Kinois qui ont dénoncé ce calvaire au micro de notre reporter et appellent par la même occasion les autorités du pays à prendre leurs responsabilités pour remédier à cette situation. Kelly Yoka nous en dit plus.
Trouver un taxi à Kinshasa devient un grand luxe en cette période de pénurie de carburant. Parmi les habitués du transport en commun, certains parmi eux ont vu leur budget de transport quotidien exploser allant de 2 000 à plus de 10 000 francs. Quelques usagers de transport en commun rencontrés à l'arrêt vers le rond-point Sosimac dans la commune de la Gombe ont exprimé leur ras-le-bol.
Par jour, j'ai dépensé 3 500 francs d'aller et retour à la maison. Mais aujourd'hui, il arrive que parfois je dépense 8 500 francs par jour. C'est-à-dire, je fais des Kitambo ville, c'est-à-dire Gombe, vers le ministère de l'Environnement. Et je rentre, j'ai dépensé 3 500. Mais actuellement, je commence à dépenser 8 500 francs par jour.
Oui, aujourd'hui, là, vraiment, c'est pratiquement un casse-tête. Hein. C'est parce que d'ici, jusque chez moi, vers ma tété là-bas, je dépense actuellement, quand je sors de chez moi pour rentrer, je dépense 10 000 francs. Donc, c'est vraiment assez quand il faut tenir compte de ce que nous avons à la fin de chaque mois.
Rappelons que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, s'est exprimé à ce sujet le mardi 6 septembre dernier, justifiant cette situation par la baisse sensible de stock en essence et aussi par le fait qu'un plan de contingence a été mis en place afin d'éviter la rupture proprement dite.
Autre nouvelle, les médecins membres du SINAMED, syndicat national des médecins, poursuivent la grève sur toute l'étendue du territoire national. Selon le secrétaire général John Senga, qui l'a dit hier mercredi dans une interview exclusive à Radio Capi, seuls les services d'urgence, la réanimation, les soins intensifs ainsi que les banques de sang, surtout dans les provinces en proie à l'insécurité, sont opérationnels. Docteur John Senga justifie cette grève par le non-respect par le gouvernement des engagements pris en août 2021. Docteur John Senga, secrétaire général du SINAMED, est joint par Pauline Massirika et Innocent Fadili.
Depuis quelques temps, nous connaissons un mouvement de grève dans tous les hôpitaux des services publics de l'État à travers le pays. Cela se résume par le seul fait que le gouvernement n'a pas honoré ses engagements contenus dans l'accord du 3 août. Nos revendications sont fondées et légitimes selon le gouvernement. Voilà pourquoi nous nous accrochons et nous voulons que le gouvernement puisse donner une solution durable par rapport à ces problèmes qui ne font que durer. Sur le plan pécuniaire, nous avons réclamé l'application du statut spécifique des médecins et là-dessus, le gouvernement s'était engagé à honorer le logement et le transport au courant de cette année budgétaire 2022.
Au cas où vous n'avez pas gain de cause, est-ce que vous allez continuer avec la grève ou bien quelle sera la prochaine étape?
Je pense que le gouvernement est suffisamment responsable pour comprendre qu'on ne peut pas abandonner la population comme ça sans soins. Aller dans les privés, ça coûte excessivement cher. Tout le monde n'est pas ministre, donc tout le monde ne peut pas aller à l'étranger pour aller se faire soigner. C'est comme ça que nous pensons encore que le gouvernement va redevenir conscient et lucide pour pouvoir honorer ses propres engagements.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, affrontement entre Teke et Yaka Akwamut dans la province du Maïndombe, le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle appelle ces deux communautés à déposer les armes et à privilégier la cohabitation pacifique. Le président de cette structure l'a dit hier mercredi dans une interview exclusive à Radio Capi. Fumudi Fima souligne que ce conflit qui a déjà coûté la vie à plusieurs Congolais ne profite à personne. Fumudi Fima a été joint par Kelioka.
La loi sur l'autorité coutumière oblige l'autorité coutumière à apporter la paix dans sa société, oblige l'autorité coutumière à garder une ambiance de fraternité entre nos communautés respectives. Et à ce titre, je voudrais d'abord inviter tous nos chefs coutumiers dans l'ensemble de la République d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Kwamut. Nous suivons certaines vidéos qui donnent des maux de tête de partout de la République. Je voudrais ici que l'autorité coutumière puisse rester debout dans ses responsabilités, inviter également le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a les affaires coutumières à sa charge, et également le ministre des droits humains, et pourquoi pas d'ailleurs tous ceux qui sont dans les institutions des droits humains, entre autres les bureaux conjoints des Nations Unies, qui tous puissent se mettre ensemble une fois pour toutes à côté de l'autorité coutumière pour l'aider à résoudre des conflits internes. Parce que au-delà de tout, les débuts de tous ces problèmes sont communautaires. Au-delà de tout, les débuts de ces problèmes sont d'abord dans des conflits fondés, mais malheureusement récupérés par des axes politiques.
Et puis justice dans cette édition du journal, la haute cour militaire a rejeté hier mercredi la requête en requisition des juges introduite par le prévenu général de brigade Baseleba Bin Mateto Jean. Elle l'a déclaré recevable mais non fondée. Le prévenu a immédiatement formulé un pourvoi en cassation qu'il a fait acter aux greffes pénales pour ce qu'il qualifie de violation par la haute cour des articles 35 et 320 du code judiciaire militaire. Retour sur les faits avec vous, Jeff Ngoy.
Le général de brigade Jean Baseleba est poursuivi pour tentative d'évasion des pensionnaires de la prison militaire d'Ndolo par une dissimulation d'armes qu'il aurait voulu livrer aux détenus, selon le ministère public. C'est le 17 août que la haute cour a ouvert le procès par l'identification du prévenu. Le conseil de l'avocat général près la haute cour a alors soulevé trois préalables avant le débat au fond. Il s'est agi entre autres de la requête relative à la liberté provisoire de son client, de la restitution de sa Jeep bloquée à la DEMIAP et de la sollicitation d'une remise en vue de s'imprégner du dossier. La quatrième requête est celle ajoutée par le prévenu lui-même ayant sollicité une audience personnelle avec le chef de l'État pour lui parler en secret de certaines informations sur sa sécurité. Rien de tout cela n'a reçu gain de cause de la part des juges.
En Ituri, pendant ces temps, plusieurs projets sont identifiés pour l'autonomisation des miliciens du groupe armé IRDPC Codeco en attendant le début effectif du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation DDRCS. C'est l'une des résolutions des échanges des deux jours entre certains leaders de cette milice et les membres de la communauté Lori sur la consolidation du processus de paix dans le territoire des Djougou. L'objectif, selon les organisateurs, est de réduire des exactions contre la population suite au problème de la prise en charge de ces assaillants favorables à la paix. Marcel Kizabiamungu.
Pendant deux jours, les leaders du groupe armé URDPC, Barco Deco, ont été formés aux notions sur l'administration de la justice pénale militaire, les respects des accords et actes d'engagement qu'ils ont signés, les droits de l'homme, les stratégies et plans opérationnels nationaux du PDDRCS. Selon la communauté Lori, après échange avec toutes les parties, il a été résolu d'élaborer une liste de tous les détenus membres de leur communauté incarcérés à la prison centrale de Bounia en vue de faire un plaidoyer pour leur libération. Aussi, il faudra identifier les barrières érigées illégalement par les FRDC dans les territoires du Djougou, dont la liste sera envoyée au commandant de la 32e région militaire pour leur suppression. Pour un bon aboutissement de ces processus de paix, certaines activités ont été ciblées pour l'autonomisation des assaillants de la Côte d'Eco. Mbitsongeza, membre de la coordination Lori de Kinshasa.
Le fait de les occuper dans la réhabilitation des routes de desserte agricole, ça va les occuper, les désintéresser de violence. Mais entre-temps, beaucoup de gens se sont remis au travail de la terre et ils sont en train de cultiver.
Notons que cette rencontre a été organisée par les autorités provinciales avec l'appui de la MONUSCO. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis, nous poursuivons notre série de reportages sur le territoire de Walikale, situé à environ 200 km au nord de Goma. Ce territoire regorge un potentiel agricole impressionnant, mais jusque-là inexploité à fond à cause de son enclavement. Connu à l'époque pour ses plantations de thé et de café Robusta et Arabica, à l'instar de Rutshuru et Masisi, le territoire de Walikale est également réputé pour la qualité des huiles de palme et des bananes platin, bien que produits de manière artisanale. Aujourd'hui, on y pratique la culture de cacao de meilleure qualité en plus des cultures maraîchères. Tout ça grâce à son climat équatorial, mais aussi son sol très fertile. Sifamaguru.
Pour l'inspecteur agricole de Walikale, le potentiel agricole de cette région est encore intact à ce jour. Sa diversité climatique permet toutes sortes de cultures, indique Stanley Chuo Mukene.
Lorsque vous parcourez tout le territoire de Walikale, vous remarquerez que nous avons des terrains de bas-fonds, des terrains de moyenne altitude et des terrains de haute altitude. Et cette logique, c'est une force à partir de laquelle nous pouvons installer toutes les spéculations selon leurs exigences agroécologiques.
L'inspecteur agricole ajoute qu'une fois désenclavé, Walikale peut constituer un grand bassin de production pour plusieurs provinces qui l'entourent. Ces techniciens de l'agriculture parlent également de la configuration et de la qualité du sol de Walikale.
Le sol de Walikale regorge encore de nutriments de haute qualité capables de supporter plusieurs rotations de cultures pendant autant d'années.
Stanley Mukeni déplore l'enclavement, la qualité des infrastructures routières qui reste un blocage à l'évacuation des produits agricoles vers des grands centres de consommation. Situation qui empêche également des grands fermiers à s'intéresser à Walikale, pense-t-il. Notez enfin que Walikale souffre d'une baisse de production agricole, surtout à cause de l'exploitation minière artisanale.
Au Kassai oriental, dans le cadre de la campagne agricole saison A, l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, a lancé ce mercredi les travaux de labour de près de 500 hectares pour 600 ménages de paysans situés dans les localités qui entourent le site agricole de Nkwadi dans le territoire de Ntilingi. Cette organisation internationale a depuis quelques jours labouré plus de 1000 hectares pour l'entreprise Bio Agro Business, BAB en sigle, qui exploite les sites agricoles de Nkwadi. L'IITA va accompagner l'entreprise BAB en technique agricole ainsi que les paysans de Nkwadi dans le but d'accroître la production agricole. Le point avec Esther Ndalafina.
Les travaux de labour de 500 hectares ont débuté ce mercredi sur le site agricole de Nkwadi en présence du représentant de l'ITIA, de Bioagrobusiness, des autorités traditionnelles ainsi que des paysans. Pour Lokosamu Tekemena, chef de groupement de Bakodila, cette action va éradiquer la faim et la pauvreté des paysans.
Nous sommes là pour sensibiliser toute la population afin de se mettre au travail pour que nous puissions toujours arriver à produire davantage. La population sera toujours prête à accepter toutes vos instructions.
Docteur Paul Martin d'Antsop Gwezet, représentant de l'Institut international d'agriculture culture tropicale a rassuré les paysans de leur accompagnement technique pour le rendement meilleur de cette saison.
Nous allons labourer ces 500 hectares et donner les semences et aussi les fertilisants dont les engrais, un peu de l'urée seront aussi distribués. On espère que les rendements seront courts de l'année passée.
Signalons que plusieurs cultures, dont notamment le maïs, le manioc et les soja, seront produites cette fois-ci sur les sites agricoles d'Nkwadi. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Cameroun, plusieurs attaques ont eu lieu ce mardi 6 septembre dans la partie anglophone du pays. Des violences en pleine semaine de rentrée scolaire, alors que certaines factions séparatistes refusent de voir les élèves retourner en classe. Si dans certaines parties du nord, ouest et du sud-ouest, les enfants ont pu reprendre les cours, comme dans le reste du pays, dans d'autres, les parents ont toujours peur de laisser leurs enfants sortir. Et puis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que les forces de Kiev avaient repris aux troupes russes plusieurs localités de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, sans toutefois donner aucun détail. Refusant de les nommer, il a évoqué des localités où les drapeaux ukrainiens sont revenus.
L'invité.
Nous l'avons dit au sommaire, notre invité dans cette édition du journal est le docteur John Senga, secrétaire général du syndicat national de médecins SINAMED. Dans une interview exclusive à Radio Capi, il s'exprime sur la grève que ce syndicat a décrétée sur l'ensemble du pays. Docteur John Senga est interrogé par Innocent Fadili.
Docteur John Senga, vous êtes, confirmez-vous qu'il y a grève dans tous les hôpitaux publics de la RD Congo?
Oui, je le confirme que dans tous les hôpitaux où il y a des médecins syndiqués du SINAMED et du SILIMED, les médecins sont effectivement en grève à travers toute la République, oui.
Quelles sont les différentes revendications qui vous ont poussé à être en grève?
Tout simplement, nous réclamons l'application de l'accord que nous avons signé, nous, SINAMED, avec le gouvernement l'année passée. C'était le 3 août 2021. Nous avons vu qu'au cours de cette année, alors que le gouvernement s'était engagé à honorer un certain nombre des revendications des médecins, mais nous avons vu que le gouvernement ne faisait absolument rien. C'est comme ça que les médecins, à la base, ont décrété ce mouvement de grève.
Parmi les différentes revendications, quelles sont les revendications les plus primordiales que d'autres?
Bon, il y a des revendications d'ordre administratif. La mécanisation des médecins, il y a une dizaine de milliers de médecins qui travaillent, qui ne sont pas reconnus par la fonction publique, ce qui est anormal. Il y a la démission sous statut, leur mécanisation, aussi la notification des médecins qui ont été nommés officiellement, soit par le Premier ministre, soit par les chefs de l'État, et jusque-là, il n'y a pas encore de notification individuelle. Sur le plan pécuniaire, nous avons réclamé l'application du statut spécifique des médecins, et là-dessus, le gouvernement s'était engagé à honorer le logement et le transport au courant de cette année budgétaire 2022. Évidemment, l'alignement des jeunes médecins à la prime des risques qui est une revendication phare aussi.
Au cas où vous n'avez gain de cause, est-ce que vous allez continuer avec la grève ou bien quelle sera la prochaine étape?
Je pense que le gouvernement est suffisamment responsable pour comprendre qu'on ne peut pas abandonner la population comme ça sans soin. Aller dans les privés, ça coûte excessivement cher. Tout le monde n'est pas ministre, donc tout le monde ne peut pas aller à l'étranger pour aller se faire soigner. C'est comme ça que nous pensons encore que le gouvernement va redevenir conscient et lucide pour pouvoir honorer ses propres engagements. En fait, ce n'est pas de nouvelles revendications. Nous demandons qu'ils puissent honorer leurs propres engagements. Oui. Et c'est tout. Le secteur de santé est un secteur vital. Je pense que le gouvernement doit absolument trouver des solutions.
Quels sont les services opérationnels dans les hôpitaux actuellement?
Voilà. Nous avons donné quelques dérogations pour, par exemple, les malades qui viennent en urgence. Urgente pour certains hôpitaux. Je pense que là, on peut encore les prendre en charge. On peut prendre en charge les malades qui sont déjà à l'hôpital hospitalisés, qui ont besoin de la continuité des soins. Là, nous continuons à les prendre en charge. Les malades qui sont en soins intensifs et en réanimation. Bien entendu, il y a quelques malades qui, pour des raisons d'urgence, parce qu'il y a une mission, par exemple, des médecins sans vacances qui est à Kinshasa, qui travaille à Kalembele, mais là nous avons accordé une dérogation à nos médecins pour qu'ils puissent travailler.
Un message pour tous les médecins de toute la République.
Oui, c'est juste pour dire aux médecins, à tous les médecins, que les revendications que nous avons portées vers le gouvernement, lui-même le gouvernement les a trouvées fondées et légitimes. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anormal ou qui n'est pas apparenté à une politiques ou autres. Donc nos revendications sont d'ordre tout à fait social. Et donc, je demande à tous les médecins de garder encore la flamme de notre lutte allumée. Nous n'en voulons pas au ministre ou au gouvernement, mais nous voulons qu'ils puissent respecter la signature qu'ils ont apposée à l'accord du 3 août 2021.
Docteur John Senga, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal, mise en onde par Alain Goyi, coordonnée et supervisée par Alain Irung. Merci pour votre particulière attention.